Salut la gang, bienvenue à ce 16e épisode de Femmes de fer. Je reçois l'une des YouTubers les plus populaires au Québec, Catherine Franqueur, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Girly Addict. Sa chaîne principale possède plus de 820 000 abonnés et sa chaîne de vlog qu'elle fait avec son chum Jay compte plus de 100 000 abonnés. Catherine nous parle de sa vie à temps plein en tant que YouTuber, de sa façon de travailler avec son chum et également de son livre Elsie qu'elle vient tout juste de lancer le deuxième tome. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Monmini, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Allô Catherine!
Allô Sophie, ça va bien?
Ça va bien toi?
Très bien, merci.
Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui en entrevue. Catherine, je sais que tu viens de me dire que c'est ton premier podcast. Ne sois pas stressée, s'il te plaît.
Oui, c'est une grande première pour moi ce matin. Je suis habituée de faire des vidéos, mais là, le podcast, là, c'est la première fois.
C'est ça, j'étais pour te dire, parce que des vidéos, t'en as fait. Est-ce que tu sais combien t'en as fait, des vidéos?
C'est une excellente question, mais je pense qu'en tout et pour tout, si je compte ma chaîne YouTube, ma chaîne de vlog avec Jay, puis sa chaîne à lui, je pense qu'on en a fait tour de 700-800 peut-être.
Wow! Hey, ça, c'est un gros, gros chiffre. Hey, excuse-moi, on se lance déjà dans le sujet pour commencer le podcast parce que je veux juste te présenter. Catherine, t'es YouTuber, mais t'es aussi écrivaine, t'es une créatrice de contenu sur toutes tes plateformes. Pour moi, t'es un exemple, en fait, sur YouTube. T'es une fille à suivre absolument. Tu es très enlignée avec ce que tu fais. T'es très claire, t'es très vraie et authentique sur toutes tes plateformes. Puis je trouve ça le fun de te voir évoluer. Je trouve ça beau, tout ce que tu crées, tous les sujets que tu amènes sur tes nombreuses plateformes. Catherine, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être juste expliquer un peu qu'est-ce que tu fais.
Oui, ben moi, dans le fond, à la base, je suis YouTubeuse. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé il y a 9 ans maintenant. J'ai réalisé il y a quelques jours, justement, que ça fait 9 ans que j'avais publié ma première vidéo sur YouTube. Donc, moi, j'étudiais en communication. Puis, en fait, j'avais vraiment envie de faire de la télé. Puis, je me suis dit, ben pourquoi pas m'essayer sur YouTube aussi, je veux dire. T'sais, bon, c'est une plateforme qui a le potentiel d'être immense. Puis, tu sais, je veux dire, à l'époque, il y a 9 ans, au Québec, c'était vraiment pas aussi gros que ce l'était, tu sais, en France, aux États-Unis. Par contre, je me suis dit, je vais commencer. Puis, tu sais, c'est pas trop grave s'il y a personne qui me regarde. Moi, ben, je vais pouvoir en profiter pour, tu sais, me pratiquer, commencer à parler devant les caméras, puis tout ça. Puis, finalement, ben, c'est pas vraiment ce qui est arrivé, en fait, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est devenu mon métier. Mais, ouais. J'ai vraiment commencé, là, dans ma chambre, chez mes parents, à faire des petites vidéos. Au départ, c'était vraiment beauté, cheveux, tout ça. C'était comme une YouTubeuse beauté typique, là. Puis bon, ça a un petit peu évolué au fil des années.
Est-ce que tu te rappelles un peu l'équipement que tu avais quand tu as commencé?
Ah oui, j'avais une petite caméra Canon qui avait coûté à peu près 100 $ ou quelque chose comme ça. J'avais pas de micro, c'est à peine si j'avais un trépied. Là, je pense que ma première vidéo, je m'étais fait une petite installation de fortune avec des boîtes sur mon bureau. Puis j'avais fermé ma porte de chambre, puis je filmais mon background. C'était littéralement une porte blanche. C'est à l'époque, c'était pas mal comme ça pour tout le monde.
Ton nom de YouTuber, c'est Girly Addict. T'as ta chaîne Girly Addict, mais t'as aussi une chaîne de vlog.
Oui, exact, qui s'appelle Kat et Jay, donc c'est ma chaîne avec mon copain Jay, qui on va sûrement reparler un petit peu plus tard, là, mais oui. Qui travaille à temps plein avec moi, puis lui aussi a sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Jay Addict.
Et t'as aussi lancé un livre dernièrement qui s'appelle Elsie. Quand est-ce que tu l'as lancé, ton premier tome? Parce que là, tu viens de lancer ton deuxième tome. Ton premier tome, tu l'as lancé quand?
Oui, c'est ça. Donc, le tome 1, il est sorti en avril 2019. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Non. Mais ça faisait 2 ans que je travaillais sur ce projet-là en silence et dans le secret que aucun de mes abonnés, puis je dirais même une bonne partie de mon entourage n'était pas au courant non plus, parce que j'ai commencé à travailler là-dessus parce que j'avais envie d'écrire un livre. C'était un hommage pour une de mes amies qui est décédée. Puis je me suis dit, ben je vais l'écrire, puis on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Donc, j'ai commencé à l'écrire pas nécessairement dans le but d'être publiée, juste dans le but de moi, un jour dans ma vie, j'avais envie d'écrire un livre. Plus le temps avançait, ben plus je réalisais que là, mon livre commençait vraiment à prendre forme. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben peut-être qu'il y aurait moyen de le publier. Je sais pas, est-ce qu'il y a une maison d'édition qui va être intéressée à ça? Est-ce que je vais avoir un public? J'en avais absolument aucune idée.
Est-ce que tu te décris comme youtubeuse, écrivaine, influenceur? Comment tu te décris quand quelqu'un te pose la question?
Bien, généralement, je vais dire créatrice de contenu parce qu'à la base, ce que je fais, tu sais, je crée du contenu pour YouTube, pour Instagram, mais j'ai aussi écrit un livre. Fait que souvent, je dis créatrice de contenu et auteur, ça va, parce que dans le fond, je fais pas YouTube, je fais ça temps plein depuis quelques années déjà. Écrire, c'est pas à temps plein encore, mais peut-être dans le futur, ça pourrait arriver.
Quand est-ce que t'as compris que c'était un gros, quelque chose d'important dans ta vie parce que t'étudiais en communication, tu voulais t'en aller en télé, toi, tu t'en allais justement probablement essayer d'aller faire des stages ou quelque chose pour pousser de ce côté-là au niveau des communications. Ta chaîne YouTube se partait tranquillement, puis ça a pris une ampleur que tu n'avais pas vu venir, finalement?
Non, vraiment pas. Mais moi, c'est ça, tu sais, à l'époque, commencer ma chaîne, j'avais même pas 18 ans encore, en fait. Puis je faisais vraiment ça pour le plaisir. Mais là, au fil des mois, je voyais, tu sais, ça commençait avec, bon, le premier 100 abonnés, puis après ça, 1000, puis là, après ça, 50 000. Puis de fil en aiguille, je me suis ramassée un peu sans trop m'en rendre compte à 100 000 abonnés. Puis là, ben, tu sais, je faisais de l'argent avec mes vidéos, je faisais de l'argent via des contrats que je faisais avec des marques. Puis là, mais j'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose, je veux dire, le fun à faire avec ça. Puis moi, c'est ça, tu sais, je travaillais à l'aubainerie à l'époque. Fait que, tu sais, j'essayais d'arranger mon temps entre le temps pour mes études, le 20 heures de job que j'ai par semaine, puis le 30-40 heures que j'utilisais, tu sais, pour faire des vidéos ici et là. Fait que, tu sais, c'était pas facile, honnêtement. Puis c'est là que je me suis dit, ben peut-être que je pourrais lâcher ma job. Puis finalement, quelques jours après avoir arrêté de travailler à l'aubainerie, ben j'ai décidé de pas retourner à l'école non plus parce que ça allait tellement bien que je me suis dit ce serait fou de pas... Le bateau, il est là en ce moment-là. Fait que ce serait complètement fou de pas sauter dedans. Au pire, si ça fonctionne pas, ben je retourne à l'école, je me trouve un emploi dans le domaine des communications encore. Mais finalement, c'est ça, mes inquiétudes étaient vraiment pas fondées. Là,
c'est ça. Parce que ça devait quand même être épeurant de se dire, ben écoutons, je vais devenir youtubeuse. C'était quelque chose qui n'existait pas vraiment dans le temps. T'as vu ton 100 000 abonnés arriver, comme tu dis, sans trop t'en rendre compte, ce qui est quand même un énorme chiffre au Québec. T'étais quand même bien installée pour dire, OK, je pense que c'est sérieux, je suis une YouTubeuse sérieuse au Québec avec tout ça.
Oui, mais en même temps, je le réalisais pas tant que ça parce que, tu sais, bon, moi, c'est sûr que Jay a toujours été là pour m'aider. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc on s'est rencontrés. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais ma chaîne YouTube, puis il a tout de suite embarqué dans mon projet, il trouvait ça le fun, puis il voulait m'aider. Puis lui, il a vraiment un bon background en tout ce qui est vraiment là. Je dis toujours que c'est un homme à tout faire parce que, tu sais, il peut autant, il a tellement de connaissances en caméra, en audiovisuel, puis dès le départ, ben il m'aidait, tu sais, il me conseillait sur quel matériel acheter, tu sais, des idées de comment planifier des vidéos. Quand j'ai commencé à y dire, tu sais, que j'aimais pas trop ce que je faisais à l'université, puis tout ça, ben il m'a vraiment encouragée à me lancer dans le vide. Puis à y aller avec mon feeling, si je peux dire ça comme ça.
Oui. Est-ce que lui voyait ton potentiel que toi, peut-être, tu ne voyais pas?
Ah oui, définitivement. Puis c'est mon agent, c'est mon cheerleader, c'est vraiment là. C'est pour ça que je dis homme à tout faire, parce qu'il est vraiment là. C'est toujours lui qui va m'encourager, même quand je suis pas certaine, des fois quand j'ai des moments de découragement ou des choses comme ça. Parce que c'est sûr que quand tu fais ta vie en montrant ta vie sur Internet, ben c'est pas toujours facile. Tu sais, je veux dire, à un certain point, c'est tu te vois constamment. Je veux dire, je fais du montage de vidéos de moi pas mal à tous les jours. Fait que tu sais, des fois, c'est dur. Là, t'es juste comme, OK, là, je suis tannée de m'entendre parler. Ah là, non, ce concept-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que c'est sûr que le fait d'être deux dans ce projet-là, ben ça aide beaucoup aussi à relativiser puis à être capable, justement, de faire encore plus de grandes choses. Puis je pense qu'on se complète bien tous les deux. Moi, je suis suis surtout devant la caméra, tu sais, j'écris les scripts de nos vidéos, puis tout ça. Lui, il s'arrange vraiment pour que la qualité soit top-notch. Il est très, très perfectionniste, puis ça, je pense que c'est un avantage en un sens.
Comment tu viens avec tes sujets de capsules YouTube? Parce que là, après autant de temps sur YouTube, est-ce que tu vois que t'as épuisé tes sujets ou parce que tu grandis, t'évolues, t'arrives toujours avec quelque chose de nouveau? Parce que je sais que il y a quelques mois, t'as fait une petite sortie publique comme de quoi que t'avais le goût d'évoluer, que ton nom Girly Addict était, que tu voulais aller plus loin que ton nom Girly Addict.
Mais moi, à l'époque, quand j'ai commencé sur YouTube, c'était comme pas à la mode de mettre ton prénom puis ton nom de famille. Tu sais, on dirait fallait garder ça secret un peu. Tu voulais pas trop le dire. Fait que moi, j'étais arrivée avec le pseudonyme Girly Addict parce que je m'étais dit comme, tu sais, j'aime les trucs de filles puis tout ça. Fait que pour moi, c'était tout naturel. Puis là, ben bon, comme je t'ai dit tantôt, j'ai commencé avec le maquillage, les cheveux, les produits, puis tout ça. Là, au fil des années, ça a évolué. J'étais devenue un petit peu plus dans le lifestyle. Donc là, je faisais, tu sais, des petites vidéos super inspirantes, comme on voyait là, il y a quelques années sur YouTube, des conseils pour ranger sa chambre, des idées de décoration de chambre. Puis à l'époque, j'avais un public qui était assez jeune. Donc moi, j'avais 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Puis à l'époque, mon public, c'était là, 12, 13 ans, jusqu'à peut-être 16 ans. Mais là, ben moi, j'ai vieilli. Donc mon public a vieilli aussi. Le type de contenu que je faisais, ben là, ça m'interpelle plus parce que j'avais plus le temps de créer des décorations pour ma chambre. Puis là, je voyais que l'engouement pour ce type de vidéo-là aussi, ça fonctionnait moins.
Ouais.
Donc là, c'était comme une grosse période de remise en question, de me dire, là, ça fait quand même un bon moment que je fais ce type de vidéo-là. Ça m'intéresse plus. J'ai l'impression que ça intéresse plus tant les gens, mais quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent regarder, c'est ça qu'ils me disent. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis tu sais, c'est moi, j'ai toujours dit, je fais des vidéos pour le plaisir parce que j'aime ça. Là, aujourd'hui, c'est devenu mon métier, puis je fais encore des vidéos parce que j'aime ça. Mais là, à un certain point, je me sentais comme forcée de faire du contenu qui me rejoignait plus, puis c'était quand même lourd, honnêtement. Ouais. Là. Puis tu sais, je dis pas ça pour me plaindre parce que je sais que je suis vraiment chanceuse. Tu sais, j'ai 26 ans, je travaille de la maison. Tu sais, en ce moment là, en pyjama, puis je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui a la chance de faire ça, mais à un certain point, c'est comme quand tu te retrouves plus dans ce que tu fais, ben c'est ça, c'est que c'est un peu décourageant.
En tant que YouTuber, comme tu dis, tu grandis devant les gens. Ça fait tellement d'années que tu leur parles tout le temps, à chaque semaine, de ta vie personnelle. Tu te dévoiles beaucoup, tu montres ce que tu fais, tes intérêts personnels. Puis là, tu grandis et c'est un peu comme les acteurs qui grandissent à la télé. Oui, au début, ils sont là pour les jeunes, peut-être plus pour les enfants, mais éventuellement, ils veulent peut-être faire du contenu plus adulte, être ailleurs aussi dans leur carrière. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi que toi, tu ressens. Tu as le goût d'aller explorer des nouveaux sujets puis d'aller faire des choses plus matures, entre guillemets. Est-ce que tu as peur des fois de perdre ton audience?
Au départ, j'ai trouvé ça quand même assez difficile parce que là, je voyais justement que l'engouement pour mes vidéos que je faisais avant mais était plus le même. Puis là, j'étais comme, tu sais, je veux dire, tu te remets tout le temps en question dans la vie. Je pense que c'est l'être humain en général. Mais là, c'est quand tu fais ça devant tout le monde, tu sais, c'est dur. Puis là, des fois, des gens t'écrivent puis sont comme, ah, ben là, moi, j'aime vraiment plus le contenu que tu fais maintenant. Je t'aimais mieux avant. Puis t'es comme, oui, mais je peux pas continuer à faire le type de contenu que je faisais avant. Fait que j'ai vraiment pris une période de temps pour réfléchir. Puis je me suis dit, garde, écoute, c'est plate, mais je peux pas plaire à tout le monde. Mais à un certain point, c'est faux que moi, j'aime qu'est-ce que je fais aussi. Donc, ceux qui aiment plus ça, ben c'est plate, c'est dommage, mais à un certain point, il faut que j'accepte qu'il faut aussi que je me plaise à moi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en fais plus trop avec ça, puis je me dis, tu sais, ben regarde, ceux que ça intéresse, génial. Puis moi, en ce moment, j'ai l'impression d'être dans un entre-deux un peu difficile parce que, tu sais, j'ai commencé vraiment là. Mes vidéos, c'était pour les ados. Puis là, ben, je suis loin d'être une ado. J'ai ma vie d'adulte, tu sais. Je veux dire, on a acheté une maison l'année dernière. J'ai du ménage à faire. J'ai l'épicerie à faire. Fait que ce mode de vie-là qui intéresse pas nécessairement, tu sais, mon audience qui est plus jeune. Mais celles qui ont commencé à regarder mes vidéos quand il y avait 18-19 ans, ben là, aujourd'hui, ça les intéresse plus de voir des choses d'ado. Ils veulent voir des trucs plus adultes. Mais là, d'un autre côté, beaucoup de ces gens-là commencent à avoir des enfants. Puis moi, j'en ai pas parce que je suis pas rendue là dans la vie. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense qu'à un certain point, j'ai juste décidé d'arrêter de me poser des questions puis faire qu'est-ce que j'aimais.
C'est de remettre toujours ta vie en question pour faire du contenu. En tout cas, c'est comme un cercle vicieux, finalement.
Pour ça que, tu sais, j'en parlais avec Jay, justement, puis c'est comme, regarde, je pense qu'à un certain point, c'est pour ça que j'ai changé le nom de ma chaîne, justement, de Girly Addict à Catherine, parce que j'étais comme, Girly Addict, c'est moi, ça a toujours été moi, mais là, c'est que j'avais l'impression que ce l'était plus, tu sais, j'étais trop détachée de ce pseudonyme-là. Donc, c'est pour ça que j'allais changer pour Catherine, parce que je me suis dit, ben Catherine, c'est moi, je veux dire, c'est mon nom, c'est ça, fait que c'est pour ça que je vais faire du contenu qui me plaît à moi.
Je vois souvent une certaine frustration au niveau de la plateforme YouTube en tant que telle. Certains me disent, bon, faut jouer la game, d'autres ont plus le goût d'être sur YouTube parce qu'ils veulent plus jouer cette game-là de l'algorithme ou du fait de faire des vidéos qui peuvent être punchées ou des clickbait ou des... Et tout ça. Puis j'ai l'impression que c'est comme un stress dans la vie des YouTubeurs, un poids lourd aussi de dire, ben je veux faire du contenu que j'aime, mais de l'autre côté, il faut que mes vidéos soient vues parce que de l'autre côté, j'en vis, donc faut que ça fasse de la pub, faut que je fasse de l'argent. Puis encore là, j'ai l'impression que c'est un autre cercle vicieux. Est-ce que toi, tu la sens, cette game-là? Tu navigues bien là-dedans naturellement?
Mais ça, c'est très touché, en fait, parce que là, je sais que je me ferai sûrement pas d'amis en disant ça, mais l'algorithme, il y a le dos large, en fait. Des fois, c'est bien de se remettre en question, en sens où, tu sais, des fois, là, si les gens regardent moins tes vidéos, ben c'est peut-être tout simplement parce que tu les intéresses plus. Puis, tu sais, je dis ça comme ça, là, avec beaucoup de légèreté, mais comme, tu sais, c'est juste parce que, bon, à un certain point, c'est vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais, tu sais, moi, je mets tout le temps l'exemple d'une émission de télé. Je veux dire, à un certain point, là, quand ça fait 8 ans que tu regardes la même série télé, ben ça se peut que tu te désintéresses. Fait que c'est la même chose avec nous. C'est juste que, bon, tu sais, c'est ma vie. Fait que je peux pas faire quelque chose de drastique. Je peux pas, genre, m'exiler en Australie pour espérer avoir des vues. Tu sais, c'est plate, mais c'est
pas amener un nouveau personnage dans ta vie, là. Il n'y a pas quelque chose...
C'est ça. Exactement. Tu sais, fait que je pense qu'à un certain point, c'est comme... Oui, c'est sûr que l'algorithme a changé au fil des années. Le contenu sur YouTube a beaucoup changé. Tu sais, moi, à l'époque, c'était des petites vidéos courtes de genre 4-5 minutes là, qui pognaient. Aujourd'hui, des vidéos de 4-5 minutes, ben YouTube ne les recommande plus parce que la métrique importante, c'est le watch time, donc le temps de visionnement. Fait qu'il faut que les vidéos soient un petit peu plus longues. Mais tu sais, je me suis adaptée de ce côté-là aussi. Au départ, j'aimais pas les vidéos longues. Moi-même, j'en regardais pas. Mais aujourd'hui, je suis contente quand les gens que je regarde publient des vidéos longues. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a une adaptation.
Avec tout ça maintenant, là, est-ce que tu te sens solide sur YouTube? Est-ce que tu te dis, moi, il y a plus de surprises ou à chaque semaine... T'es toujours excitée de dire comme, OK, on fait un nouveau concept, on amène quelque chose de nouveau, un nouveau décor, parce que je sais que vous vous impliquez beaucoup aussi dans la construction des décors, dans les props. Vous mettez beaucoup de temps, d'énergie, d'argent dans le développement de votre chaîne, parce que c'est pas juste on se lève le matin, on prend la caméra puis on filme.
Bien, en fait, la raison pour laquelle on a déménagé, c'est parce qu'on avait besoin de plus d'espace justement pour filmer. Donc, notre sous-sol au complet s'est rendu notre studio. Donc, on a des toiles qu'on peut descendre, on a des écrans verts, nos éclairages sont installés en permanence. Donc, nous, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous de faire notre travail comme ça. T'sais, je sais qu'il y en a qui disent que c'est très intense puis que c'est too much, que les gens n'ont pas nécessairement besoin de ça. Mais nous, on a du fun à le faire. T'sais, on trouve ça le fun de pouvoir justement... faire des beaux décors, puis trouver des concepts que, bon, ils n'ont peut-être pas nécessairement été vus, ou si c'est un concept qui a déjà été fait, bien, le refaire un peu à notre manière. Puis je pense que c'est ça aussi, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui regardent les vidéos sur YouTube, c'est pas nécessairement pour le contenu, c'est pour la personne aussi, parce qu'ils aiment, c'est ce que la personne dégage, ils se sentent inspirés par cette personne-là.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast. Est-ce que tes parents comprennent ce que tu fais?
Oui, mes parents sont très, très... ils me supportent beaucoup. Je dirais pas que ça a pas été le cas avant, mais disons que quand je suis allée les voir puis que je leur ai dit que j'arrêtais l'école pour me lancer YouTube à temps plein, disons qu'ils étaient pas très, très contents. Mais tu sais, je sais que c'est pas parce qu'ils croyaient pas en moi. C'est juste parce que je sais qu'en tant que parent, tu veux le meilleur pour ton enfant puis tu veux pas comme... tu sais, quand ta fille de 20 ans te dit « ben maman, j'arrête l'école parce que je veux continuer à peindre des pots maçons sur Internet. »
Avec ça. Mon chum, ça va être super le fun.
Exactement. Fait que c'est sûr que c'est pas tout à fait l'image qui se faisait, mais je veux dire, aujourd'hui, ils ont vu que, je veux dire, tu sais, j'ai pris de l'expérience dans qu'est-ce que je fais, je sais qu'est-ce que je fais, je connais mon domaine, mes choses vont bien. Puis, ben, sont très contents pour moi. Ils sont venus me voir justement le week-end dernier. J'étais au Salon du Livre de Montréal. Fait qu'ils sont venus me voir. Puis, je pense, en tout cas, j'espère qu'ils sont fiers, là. J'espère qu'ils sont contents.
Mais je suis certaine qu'ils sont fiers de voir aussi le fait que vous êtes super professionnel dans ce que vous faites, puis vous prenez ça au sérieux, en tout en vous amusant. Mais, tu sais, je pense que vous vous impliquez tellement dans tout le développement, la création de ce que vous faites, ce qui fait que vous êtes solide sur vos plateformes. Puis moi, je trouve ça fascinant, le fait que tu es avec ton chum à travailler sur vos plateformes. Est-ce que des fois, très sincèrement, là, est-ce que des fois, vous trouvez ça lourd d'être toujours ensemble et de travailler ensemble ou vous vous amusez tout le temps?
Très sincèrement, là, je te dirais que, puis ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas en général, mais on s'entend extrêmement bien, puis il n'y a pas vraiment d'accrochage. Je veux dire, on a du fun à travailler ensemble, mais ça reste que, oui, effectivement, on est 24 heures sur 24 ensemble, nos deux bureaux sont à côté. Donc, c'est sûr que des fois, tu sais, dans des moments un petit peu stressants, ben là, il y a des tensions, puis là, ben, tu sais, je veux dire, lui, il veut faire quelque chose d'une manière, moi, je veux le faire d'une autre façon. Fait que là, justement, là, ça crée des petits accrochages, mais ça arrive pas si souvent que ça. Puis quand ça arrive, bien, on est capable de faire la différence entre 4TJ le couple et 4TJ les partenaires de travail. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut pas oublier que des fois, ben, tu sais, on est les deux assis sur notre ordi, un à côté de l'autre, mais on se parlera pas pendant 4 heures de temps parce que les deux, ben, on va être occupés à faire nos choses, puis tu sais, on laisse l'autre faire ses choses. Fait que je pense que, tu sais, si jamais un jour, pour peu importe la raison, on arrêtait de travailler ensemble, je pense qu'on serait vraiment triste.
Vous êtes rendu à combien d'abonnés? Est-ce que tu sais, toutes ensemble, les trois chaînes ensemble, est-ce que tu sais, ça fait combien d'abonnés?
J'ai pas le chiffre exact, mais je pense que si on calcule sur nos comptes Instagram, puis nos trois chaînes YouTube, puis tout ça, c'est plus que 1 million en tout. Ouais. Ce qui est vraiment complètement fou, parce que tu sais, quand tu commences ça, ben, je veux dire, oui, tout le monde veut réussir dans la vie, c'est pas un secret, mais je veux dire, tu t'attends pas à que ça fonctionne à ce point-là. Puis même si aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai peut-être plus nécessairement le nombre d'abonnés actifs que j'avais il y a quelques années, ben je peux voir quand même qu'il y a un très grand nombre de personnes, beaucoup plus grand que qu'est-ce que j'aurais pu m'imaginer de toute ma vie, qui nous suivent encore au quotidien, qui nous parlent. Puis des fois, les gens, ils nous rencontrent dans la rue ou dans des événements, des choses comme ça. Puis là, ben, ils commencent à nous parler de choses qu'on a présentées dans nos vidéos. Fait que c'est le fun, tu sais, de pouvoir... On est vraiment privilégié d'avoir ce contact-là avec autant de personnes, même après 9 ans encore. C'est fou, là, parce que je veux dire, du jour au lendemain, si YouTube n'existe plus, ben c'est bien dommage, mais toute cette communauté puis cette plateforme qu'on a pris des années à faire grandir puis qu'on a travaillé fort, ben ça n'existe plus puis ça s'arrête. Fait qu'on est super contents, justement, on est vraiment privilégié.
Qu'est-ce que tu dirais aux gens, peut-être même aux parents qui nous écoutent, à des jeunes qui veulent partir leur chaîne YouTube? Ça serait quoi tes conseils à ces gens-là?
Et qu'il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons. Tu deviendras pas riche et célèbre avec plein de produits gratuits du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup de travail. Puis tu sais, comme je dis, nous, on est chanceux parce que aujourd'hui, on fait ça temps plein. Fait que c'est facile pour nous. Tu sais, si on se couche à 4 heures du matin pour finir le montage d'une vidéo, ce qui arrive très souvent, soit dit en passant, quand ça arrive, ben tu sais, le lendemain matin, on n'a pas à se réveiller à 7 heures pour aller au travail. Tu sais, c'est qu'on peut juste se réveiller un petit peu plus tard puis commencer à travailler un petit peu plus tard puis compenser le soir aussi. Fait qu'il faut vraiment que ce soit parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça. Puis moi, je le dis tout le temps, tu sais, quand les gens, ils disent « Ah, oh, c'est facile être youtubeur, moi aussi, je vais le faire puis faire plein d'argent », ben vas-y, fais-le, tu sais. Ouais. Je t'empêche pas de le faire. Puis il y en a beaucoup, tu sais, qu'on a vu au fil des années qui ont commencé puis qui ont arrêté parce que c'est vrai que c'est pas facile, c'est le fun, mais c'est pas facile.
Moi, je pense à mon expérience personnelle. Moi, j'adore YouTube. J'aime beaucoup ça. Puis, je me suis fait du fun à faire ma chaîne. Mais moi, personnellement, avec un enfant, tout ce que tu viens de décrire là, de faire du montage pendant la soirée ou la nuit, je le faisais. Puis, j'adorais ça. Moi, j'étais passionnée. Puis, ça me dérangeait pas, même le week-end, de travailler. Puis même les gens me regardaient de côté. Ils faisaient comme, mais qu'est-ce que arrête, là? Qu'est-ce que tu fais? Puis, je suis comme, non, tu sais, c'est vraiment une passion. Mais je dois avouer qu'avec un enfant, ça a changé tout, du tout pour tout.
Tu vois, quand les gens me demandent comme, puis quand est-ce que vous allez avoir des enfants, mais on les regarde tout le temps, tu sais, un peu cernés là, de notre nuit de 2 heures la veille. Puis, tu sais, nous, on a dormi 2 heures, pas parce qu'on s'est fait réveiller par des enfants, mais parce que, tu sais, on a fait du montage, parce que j'avais des chapitres envoyés à mon éditeur. Fait que, tu sais, c'est comme, pour le moment, on a le mode de vie qui nous le permet. Fait que, tu sais, c'est cool, mais c'est ce que les gens comprennent pas souvent. C'est, ben, comme tu as dit, c'est les soirs, c'est les fins de semaine, c'est, tu as des deadlines. C'est des fois pour des collaborations ou pour absolument mettre ta vidéo en ligne. Donc, tu sais, c'est pour un certain point que tu sois vraiment passionné par ça, parce que sinon, moi, j'en connais pas beaucoup des gens là, qui accepteraient de travailler, dépasser 9 heures le soir puis les fins de semaine aussi.
Et parfois gratuitement, parce que le temps que tu passes sur une vidéo, tu fais pas nécessairement assez d'argent qui va équivaloir, en fait, tout le temps que tu as mis sur cette vidéo-là ou sur ce projet-là. Parlons-en justement de ton livre, là. Je veux vraiment avoir le temps d'en dire un mot là-dessus. Comment s'est passé le salon du livre? Ça avait l'air assez intense. J'imagine que tu as vu beaucoup de gens qui sont venus pour la signature du livre.
Je pense que les mots pour qualifier ce salon du livre, ce serait chaotique et beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup d'amour en sens où c'est complètement fou là, de rencontrer des gens qui t'attendent avec ton livre. Ben, mes 2 livres, en fait, maintenant, dans les mains, t'es comme, sont excités de te rencontrer. Puis toi, t'es encore plus excité de les rencontrer parce que tu te dis, hey, ces personnes-là, soit qui ont acheté le livre et qui l'ont déjà lu, puis là, ben, ils vont pouvoir t'en parler un peu, ou qui viennent tout juste d'acheter le livre puis qui vont le découvrir dans les prochaines heures. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, mais c'est ça, tu sais, à travailler de la maison, je les vois pas, les gens. Tu sais, on se parle, tu sais, parce que j'essaie le plus possible de répondre à mes commentaires, pas à mes messages, mais je peux pas les voir physiquement. Fait que là, c'est le fun d'avoir justement cette proximité avec les gens. Mais je t'avoue que le samedi après-midi, quand je suis arrivée, puis que c'était là complètement le chaos devant ma table. Il y avait un line-up immense. Je savais juste pas comment réagir. Même les organisateurs du Salon du Livre, ils s'arrachaient un petit peu les cheveux aussi. Parce que bon, tu sais, les gens, ils se déplacent pour me voir. Fait qu'évidemment, moi, je veux voir tout le monde. Mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Fait que là, tu sais, c'était de trouver la balance entre passer du temps avec les gens qui sont devant moi à ma table, mais pas prendre trop de temps non plus parce que je veux offrir la même chance à tout le monde de pouvoir me rencontrer. Fait que c'est pour ça que je dis que c'était un peu chaotique. C'était vraiment de gérer tout ça, mais en même temps, tu sais, je rentre tellement dans ma bulle, tu sais, je vois les gens, puis je suis tellement contente de pouvoir leur parler, puis tu sais que là, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils avaient déjà fini le tome 2, puis là, on me demandait, OK, wow. Puis là, le tome 3, il sort quand? Puis pour vrai, c'est complètement fou comme feeling. Là, j'essaierais de le décrire, puis je pense que je pourrais même pas. C'est juste une énorme dose d'amour, puis ça fait vraiment plaisir.
Tu disais que tu as écrit ce roman-là en l'honneur d'une de tes amies qui est décédée. Comment ça s'est débuté, ce processus-là, personnellement?
Bien, en fait, moi, quand comme j'ai dit tantôt, je travaillais à l'aubainerie, puis j'avais une de mes collègues de travail qui s'appelait Francine. C'était une dame plus âgée, elle avait dans la 60aine, mais on s'est tout de suite vraiment bien entendus. Puis en fait, souvent, on travaillait les soirs ensemble, comme un lundi soir à travailler dans l'enfant à l'aubainerie. Il n'y avait pas beaucoup de parents qui venaient avec leurs jeunes enfants. Fait que, tu sais, souvent, on parlait, puis on apprenait à se connaître comme ça, puis on est vraiment devenus des bonnes amis rapidement. Puis en fait, Francine, elle me disait à quel point elle aimait écrire, puis à quel point elle voulait écrire un livre, puis moi aussi. Puis tu sais, on parlait de ça justement, puis tu sais, on s'envoyait mutuellement des choses qu'on écrivait. Puis moi, quand j'ai quitté l'aubainerie, Francine a quitté elle aussi parce que malheureusement, elle a appris qu'elle est atteinte d'un cancer. Donc, on a continué à se voir quand même, tu sais, même si on travaillait plus ensemble. En mars, il y a 2 ans, elle est malheureusement décédée. Puis ça m'a vraiment fait de la peine parce que moi, en fait, c'était la première personne de mon entourage proche qui décédait. J'ai jamais eu peur de la mort en tant que telle, mais là, on dirait que j'ai pris un 2 minutes, là, parce que là, j'étais comme, hey, c'est mon amie, elle était là la semaine dernière, puis là, ben, elle est plus là. Puis la première chose que j'ai pensé, c'est, hey, elle pourra jamais lire le livre que je voulais tant écrire, elle qui était tant excitée de me lire. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée, justement, d'écrire l'histoire d'une jeune fille qui est Elsie, qui perd sa meilleure amie, qui est une vieille dame qui habite en face, qui s'appelle Francine, et qui décide de la contacter avec un jeu de Ouija pour pouvoir lui dire au revoir parce qu'elle n'est pas capable de s'imaginer vivre sans avoir dit au revoir à Francine. Fait que moi, je tiens tout de suite à dire que j'ai pas réellement joué au Ouija. Ça, c'est vraiment la partie qui est fictive. Mais tu sais, je me suis dit, c'est un bel hommage pour elle. Puis même si, bon, elle pourra pas lire mon livre, ben on dirait qu'il y a une petite partie de moi qui pense que à quelque part, ben elle était là avec moi pour l'écriture du livre. Puis tu sais, si je te raconte une petite anecdote là, quand j'ai reçu mes livres, en fait, je les ai reçus au mois de mars. Puis moi, je l'avais pas vu en version papier encore. Puis le directeur de ma maison d'édition, il m'avait dit, ah, tu vas les recevoir le 19 mars, c'est assuré. Puis il m'a appelé le 18 mars au soir pour me dire, écoute, je suis vraiment désolée, mais tu vas juste les recevoir dans 2 jours parce qu'on les a envoyés trop tard, fait que tu pourras pas les recevoir à temps. Puis là, le matin du 20 mars, ça sonne à la porte, puis c'est pile à ce moment-là que j'ai allumé, c'était la date de fête de la vraie Francine. Fait que, tu sais, c'est ouais, non, c'est complètement fou. Puis tu sais, c'est là que je me dis, peut-être qu'à quelque part, elle avait un petit rôle à jouer là-dedans. Fait que je suis vraiment fière d'avoir écrit ce livre-là. Tu sais, je me dis, ben OK, elle n'aura pas pu le lire, mais en même temps, je trouve que c'est un bel hommage pour elle.
C'est un très bel hommage. Combien de temps ça t'a pris écrire le premier tome?
2 ans. Donc, mais je l'écrivais pas du tout en plein, là. Je veux dire, la première année, je l'écrivais là, ici et là, quand j'avais du temps. J'ai beaucoup voyagé en 2016, justement. Ça reste que c'était mon premier livre. J'avais absolument jamais rien écrit. T'sais, j'avais étudié en communication, mais c'était pas assez pour me donner un background pour écrire un livre. Donc, avec Pierre, qui est mon directeur littéraire, on a vraiment travaillé fort, justement, pour faire un bon livre. Puis je l'ai lancé sans trop d'attente en me disant c'est absolument pas ce que les gens s'attendent de moi sur ma chaîne YouTube. T'sais, probablement qu'ils s'attendaient plus à un peu ce qui a été fait, un livre peut-être un peu plus autobiographique ou plus attaché à ce que la personne faisait à sa chaîne YouTube. Mais moi, j'avais vraiment envie d'écrire un roman. Fait que tu sais, je me suis dit, ben regarde, c'est un livre paranormal que j'essaie de vendre à des ados. Est-ce que ça va réellement fonctionner? J'en ai aucune idée. Puis finalement, ça a dépassé mes attentes là, fois mille. Je m'attendais vraiment pas à cet engouement-là.
Vous avez réimprimé 3 fois, si je me trompe?
Oui, exactement. Ben écoute, pour la première batch, on n'en avait pas imprimé tant que ça parce que ma maison d'édition, tu sais, ça reste que, puis j'étais 100% d'accord avec eux, on est resté assez conservateur dans nos nombres parce qu'on disait, tu sais, bon, ça reste que c'est un premier roman. Moi, oui, j'ai eu une audience sur YouTube, mais est-ce que je vais être capable de prendre cette audience puis faire qu'ils achètent mon livre? Tu sais, on le savait pas. Mais là, dès le premier week-end, le livre était absolument sold out partout. Il y avait pratiquement pas moyen d'en trouver. Fait que là, c'était comme un petit peu la panique, mais on a réimprimé assez rapidement, puis on a réimprimé encore une autre fois parce que la demande était beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'on pensait. Donc, c'est pour ça que moi, dans le fond, j'ai sorti le tome 1, puis j'avais absolument rien écrit du tome 2. Puis là, quand on a vu à quel point les gens aimaient le tome 1, on s'est dit comme, OK, ben je pense qu'on va tout de suite embarquer dans l'écriture du deuxième, puis on va y aller avec ça.
Fait que j'imagine le deuxième s'est fait plus rapidement, de façon plus structurée.
Oui, oui, définitivement. Mais en fait, le deuxième, je l'ai écrit en 6 semaines. Wow. Ça semble vraiment fou comparé à l'autre qui m'a pris 2 ans. Mais en fait, le deuxième, je l'ai écrit à temps plein, carrément. Puis, Jay est militaire. Donc, lui, il était parti dans un entraînement pendant 6 semaines cet été. On avait tout pré-filmé nos vidéos d'avance. Donc, moi, j'étais tout seul à la maison. J'avais vraiment que ça à faire. Fait que je me suis vraiment mis dans ma bulle pendant 6 semaines. J'ai travaillé justement avec mon directeur littéraire, tu sais, pour vraiment faire là, une bonne structure, une bonne forme. Puis ça s'est fait quand même assez rapidement. Là, le troisième, je viens tout juste de terminer de l'écrire. Ça a été à peu près 3 mois, celui-là.
OK. Donc, le troisième va sortir quand?
Autour de mars 2020, quelque chose comme ça. Donc là, en ce moment, on est en train de faire les correctifs, travailler sur la couverture. Donc, c'est drôle parce que, tu sais, le deuxième, il est sorti, ça fait à peine 1 mois. Ouais. Mais je suis déjà excitée pour le troisième, justement, parce que là, tu sais, la série ben, est un petit peu plus établie aussi. Tu sais, il y a quand même 2 tomes. Et que, puis ça, c'est le dernier, en fait, parce que j'avais toujours prévu que ce soit une trilogie. Donc là, je pense que les gens ont hâte de savoir comment ça se termine. Puis le deuxième, tu sais, sans révéler de punch, là, il se termine vraiment sur un gros suspense.
Terminant, là, je veux savoir, qu'est-ce que tu veux développer? Parce que tu as l'air d'avoir plein de projets en tête, vous arrêtez jamais. Est-ce que tu peux dévoiler certaines choses que tu as le goût de développer éventuellement?
Oui, ben c'est sûr que côté écriture, j'aimerais ça me lancer dans quelque chose de complètement différent d'Elsie. Donc, toujours pour le même public, tu sais, ado, jeune adulte, mais pas du tout paranormal ou science-fiction ou quoi que ce soit. Là, je veux vraiment y aller avec quelque chose de plus vie de tous les jours, si je peux dire ça comme ça. Donc, oui. J'ai déjà commencé lentement, mais sûrement, à travailler sur quelque chose. Puis, il y a tellement d'autres projets que j'aimerais ça faire. T'sais, j'ai toujours trippé sur les vêtements plus lounge, t'sais, comme les pyjamas ou les vêtements plus relax aussi. Fait que même si on n'a rien vraiment de concret de ce côté-là, ben peut-être que c'est quelque chose que j'aimerais explorer. Du côté de Jay avec les jeux mobiles, ben le prochain jeu qui devrait sortir éventuellement là, dans les prochains mois, pour chaque téléchargement, il y a 2 sous qui vont aller à une fondation de protection pour les animaux. Donc, okay. comme notre chat vient d'un refuge, ben c'est une cause qui nous touche à cœur. Donc, peut-être s'impliquer un petit peu plus de ce côté-là aussi.
Mmh. En terminant, Catherine, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de foncer. Peu importe, même si cette personne-là se fait dire non, même si elle se fait décourager, que cette femme-là elle a une idée en tête puis qu'elle va tout faire pour le réaliser malgré toutes les embûches qu'il y a dans son chemin.
Est-ce que tu t'es souvent fait décourager de ton côté?
Pas tant que ça, je dirais, mais c'est sûr que sans nécessairement me faire décourager directement, des fois, c'était plus des petits sous-entendus, genre, ben, je sais pas, là, on verra si ça va fonctionner, puis tout ça. Fait que, tu sais, toujours un petit peu subtil, mais ça revenait tout le temps à « Ah, ouais, je suis pas sûre, finalement. » Donc, ouais. Mais bon, moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, justement, j'ai la chance, à mon âge, d'être où est-ce que je suis dans la vie. Puis je suis vraiment très, très contente de ça.
Si on veut te contacter, Catherine, on t'écrit où?
Sur mon Instagram, c'est vraiment le plus simple. C'est là que je réponds toujours. Donc, mon Instagram étant toujours Girly Addict, parce que malheureusement, je ne pouvais pas le changer pour Catherine parce que c'était déjà pris. Mais bon. Instagram, c'est vraiment la meilleure plateforme.
La meilleure plateforme. Sinon, on te suit sur ta chaîne YouTube. Et évidemment, on va se procurer ton livre. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir fait cette superbe entrevue. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspiré pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine!